Place Info.
Bonjour Julien de Normandie.
Bonjour.
Vous lisez Valeurs Actuelles ?
Ça m'arrive de consulter des articles de Valeurs Actuelles. Vous savez, quand vous êtes un ministre, c'est important de pouvoir lire tous les organes de presse, quel que soit leur fond de pensée, si je puis dire.
Vous lirez donc l'interview d'Emmanuel Macron, vous achèterez le numéro ?
J'ai même déjà lu l'interview d'Emmanuel Macron, et qui est une interview importante. Vous savez, quand vous êtes président de la République, c'est important de pouvoir vous adresser à tous les Français. Vous êtes président de tous les Français.
Y compris des lecteurs d'un hebdomadaire à la droite de la droite. C'est le même hebdomadaire, je crois, qui vous qualifiait d'imbécile heureux de la politique
il y a quelques mois. Oui. Mais bien entendu, et fort heureusement. Et j'irai même peut-être encore plus quand certains ne sont parfois pas convaincus, parfois très critiques, parfois emploient les qualificatifs que vous venez de dire. Mais notre responsabilité, au premier rang desquels celle du président de la République, c'est de pouvoir parler, exposer, échanger. Mais donc c'est, à mes yeux, en tout point important que le président de la République puisse s'exprimer, y compris dans un média tel que Valeurs Actuelles, bien évidemment.
Julien de Normandie, quand Emmanuel Macron bombe le torse sur les questions de l'immigration dans Valeurs Actuelles, est-ce qu'on ne peut pas dire que le président de la République braconne sur les terres de l'extrême droite ?
Non, je vois votre point, mais je vous le dis très clairement, non. L'immigration aujourd'hui, ça a été un tabou pour beaucoup de personnes. Et ça a été un totem pour d'autres, un totem pour tous les extrêmes. Moi, je suis désolé, en tant qu'engagé politique républicain, croyant aux valeurs de la République, je considère qu'il est de notre devoir de parler aussi d'immigration, précisément parce que je ne veux pas que demain, ce sujet de l'immigration soit géré par les extrêmes. Précisément.
Et c'est parlant dans un magazine ultra conservateur, pensez qu'on va déminer ce débat.
Mais vous parlez d'une interview là, mais ça fait plusieurs mois que le sujet a été mis sur la table et dans l'agenda par le président de la République lui-même. On a organisé un débat à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a indiqué 6 orientations très claires pour avancer sur ce sujet. Des annonces seront faites dans les prochaines semaines par le gouvernement sur ce sujet. Donc, on a établi un cadre posé, un cadre apaisé, un cadre disant justement, ça n'est pas un tabou pour certains et un totem pour d'autres. Ça doit pouvoir être un véritable moment, un véritable sujet d'échange entre les Français. C'est ce qu'on a organisé, c'est ce qu'on a fait, et on aura maintenant, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, l'occasion, le gouvernement, de montrer les annonces suite au notamment aux débats ayant eu lieu à l'Assemblée
Julien
nationale
de Normandie, et au Sénat. Julien de Normandie, 612 SDF sont morts dans la rue l'année dernière. Statistique terrible, c'est 15% de plus que l'année précédente. Écoutez Géraldine Franck, la présidente de ce collectif Mort dans la rue sur France Info.
Nos chiffres, ils n'y sont pas exhaustifs, puisque nous prenons connaissance des décès par nos partenaires, par les associations, les institutions et les médias. Et on sait, par un travail de rapprochement qui a été fait avec un institut, que les vrais chiffres sont 6 fois supérieurs aux chiffres que nous-mêmes on avance.
Pourquoi autant de morts ? Pourquoi des centaines de morts dans les rues de France ?
Parce que la rue, ça tue. Et que malheureusement, vous avez des milliers de personnes qui, encore aujourd'hui, sont dans la rue. C'est des drames. C'est des drames atroces, des personnes qui sont dans une très grande détresse et qui, pour plusieurs centaines d'entre eux, succombent à ce que la rue apporte. Parce que la rue, elle tue l'hiver, elle tue aussi l'été, d'ailleurs. Et donc moi, j'ai la responsabilité au sein du gouvernement de gérer ce qu'on appelle l'hébergement d'urgence, de donner à
le
chacun...
Le système est au bord de l'embolie, c'est le mot, effectivement, du patron du SAMU social à Paris.
Mais aujourd'hui, il faut que vos auditeurs se rendent compte. Aujourd'hui, ce soir, par exemple, il y aura à peu près 150 000 places d'hébergement d'urgence ouvertes par l'État avec les collectivités et les associations. C'est l'équivalent d'une ville comme Le Mans. C'est ça le système aujourd'hui existant.
Est-ce qu'il y en a suffisamment aujourd'hui pour accueillir tous ceux qui pourraient y aller ?
C'est le problème. C'est qu'en dépit de cet effort, et cet effort, il a été accru de manière extrêmement significatif depuis 2 ans. On a ouvert et pérennisé plus de 15 000 places supplémentaires. En dépit de ces efforts, vous avez encore des milliers de personnes qui dorment à la rue. Alors, à partir de cette fin de semaine, on rentre dans ce qu'on appelle la période hivernale.
Trêve locative des expulsions qui va durer 5 mois.
Exactement. Et dans cette période hivernale, pour prévenir des températures qui vont baisser, on redouble d'efforts. C'est-à-dire qu'on va ouvrir des places temporaires supplémentaires. 14 000 de plus.
C'est le chiffre que vous nous annoncez ce matin.
Que je vous annonce aujourd'hui.
14 000 en plus, le temps d'un hiver uniquement.
Le temps d'un hiver, et une partie d'entre elles d'ailleurs seront pérennisées à la sortie de l'hiver. 14 000 de plus. Dans le budget que je vais présenté dans quelques jours à l'Assemblée nationale. C'est 100 millions d'euros supplémentaires qu'on met sur l'hébergement d'urgence et les politiques de logement d'abord.
Pour être très clair, ce sont des places qui s'ajoutent aux 150 000 places d'hébergement d'urgence dont vous avez parlé il y a quelques instants.
Exactement.
On sera donc à 164 000, pardon, pour l'addition de bon matin. Mais...
Exactement. Et c'est des places qui seront ouvertes en fonction des températures, en fonction des besoins. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que moi j'agis avec énormément de détermination, parce que chaque personne qui décède est un immense drame. Chaque personne à la rue est un échec collectif, un échec de société. Comment, dans notre société, on peut vivre avec autant de personnes à la rue? Et donc j'agis avec énormément de détermination, en ouvrant de plus en plus de places, en accompagnant, en allant vers et en travaillant avec les élus locaux et les associations. Mais il faut aussi avoir beaucoup d'humilité face à ça. Beaucoup d'humilité, parce que en dépit de tous ces efforts, vous avez encore des personnes qui dorment à la rue. Vous avez parfois des femmes et des enfants.
Des familles.
Et malheureusement, de plus en plus.
Julien
et donc,
Normandie,
il faut continuer à agir avec cette détermination et trouver aussi des solutions de long terme pour
Normandie,
sortir ces personnes de la précarité.
Ces personnes qui dorment dans la rue, ces familles qui dorment dans la rue, c'est parfois, souvent, des personnes qui ont été expulsées de leur logement. La Fondation Abbé Pierre établit un triste record. En 2018, il n'y a jamais eu autant de Français expulsés, 36 000 au total, c'est un triste record. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites au préfet, stop, modérez effectivement les expulsions avec le concours de la police?
Oui, on travaille beaucoup sur cette politique de lutte contre les expulsions. Comment il faut faire? Parce que là aussi, c'est des vies qui parfois sont brisées. Mais comment il faut faire? Il faut prévenir. Quand une personne a un problème de paiement de son loyer, dès lors qu'elle est accompagnée par des travailleurs sociaux, dans la majeure partie des cas, on trouve des solutions. Dans la majeure partie des cas. Et donc, depuis 2 ans maintenant, on a mis en place cette politique d'accompagnement. Sur les chiffres que vous donnez, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que entre le début des années 2000 et environ 2015, les expulsions ont explosé, plus 180%. Depuis 2016, elles se stabilisent ou augmentent un peu, mais autour de 15 000 expulsions, 15 000 ménages, d'où les 36 000 personnes.
D'où les 36 000, il y a 2 personnes
exactement,
en moyenne dans chaque foyer.
Mais donc, aujourd'hui, on a arrêté cette augmentation drastique, cette explosion des expulsions, précisément en accompagnant le plus en amont possible. C'est ce qu'on continue à faire, parce qu'il faut, à chaque fois, pouvoir éviter en trouvant des solutions, en protégeant les propriétaires et en protégeant les locataires. C'est ça l'action que nous menons.
Julien de Normandie, ministre de la Ville et du Logement, est avec nous jusqu'à 9h. On va évoquer la situation à Marseille, l'habitat indigne, dans quelques instants. On est quasiment un an après l'effondrement de plusieurs immeubles de la rue d'Aubagne. On parlera également des APL. Vous nous direz si vous avez l'intention ou non de les baisser à nouveau d'ici la fin du quinquennat. D'abord à 8h41, Soizic-Bourg, pour le rappel de l'actualité.
Tireur fou ou auteur conscient d'un attentat, la justice se penche sur le profil psychique de Claude Cinquet, l'octogénaire soupçonné d'avoir attaqué 2 fidèles à la mosquée de Bayonne. Lundi, il assure avoir voulu venger la destruction de Notre-Dame de Paris, destruction qu'il attribue aux musulmans. Dans ce contexte, Emmanuel Macron dénonce ceux qui veulent semer la haine et la division et se servent du principe de laïcité pour mener le combat de telle ou telle religion. Le chef de l'État assure que la République fait bloc autour des victimes. Des discussions en cours entre PSA et Fiat Chrysler, les deux groupes confirment s'entretenir au sujet d'un rapprochement, voire d'une fusion pour créer un géant mondial du secteur, le 4e plus important au monde. Et puis un pont de la Toussaint compliqué pour les voyageurs de la SNCF, toujours 3 TGV sur 10 sur la façade atlantique. Ça s'améliore demain avec 8 trains sur 10 jusqu'à dimanche. L'INSEE enfin publie les chiffres de la croissance en hausse de 0,3% au 3e trimestre, sur le même rythme depuis le début de l'année, un rythme tiré par une légère augmentation des ménage.
France Info. Et tout est plus clair.
Julien de Normandie, il y a quasiment un an, 8 personnes trouvaient la mort à Marseille dans l'effondrement de plusieurs immeubles de la rue d'Aubagne, à 2 pas du Vieux-Port. Dans la foulée, des centaines d'autres immeubles ont été évacués parce qu'on a craint qu'ils tombent. Eux aussi, des milliers de Marseillais ont dû être relogés temporairement. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui n'ont toujours pas retrouvé une solution définitive? Soyez patients.
Je leur dis que je suis à leur côté. Je crois d'ailleurs qu'ils le savent, parce que la rue d'Aubagne, pour moi, a été un événement extrêmement fort. Je suis arrivé sur le site avant que le 3e immeuble ne s'effondre. J'ai accompagné les marins-pompiers de Marseille qui ont fait un travail extraordinaire tout au long de la première journée, de la première soirée où on n'avait pas de nouvelles des familles. Et puis, depuis ce drame, je suis retourné à Marseille peut-être 8 ou 9 fois pour rencontrer des collectifs, les accompagner, mettre en œuvre les procédures d'urgence. Il y a à peu près 3500 personnes qui ont été évacuées, un peu moins de 400 immeubles qui ont été évacués. Aujourd'hui, il reste encore quelques centaines de personnes dans des hôtels, donc dans des logements très provisoires. Et donc pendant un an, on a géré au mieux l'urgence avec les collectivités locales, en d'abord essayant de faire en sorte que les familles puissent retrouver leurs immeubles. C'est à peu près la moitié des immeubles qui ont été réintégrés.
Il y en a qui ne pourront jamais rentrer chez eux.
Et puis deuxièmement,
très probablement.
Exactement, c'est d'organiser la reconstruction de Marseille. Et c'est la phase qu'on a aujourd'hui entamée. La reconstruction d'un Marseille, mais d'un Marseille qui...
Organiser la reconstruction de Marseille. On parle d'une ville en France, en 2019, il n'y a pas eu de bombardement à Marseille.
Non, mais ce fléau de l'habitat indigne. Vous savez, moi j'en ai fait un marqueur au premier jour de mon action. J'ai dit au premier jour, ministre du logement, ça ne doit pas être que le ministre de la construction. Ça doit être aussi le ministre de la rénovation.
Et Marseille est un cas à part aujourd'hui en France.
Marseille est un cas particulier, on va dire. Mais malheureusement, ce fléau de l'habitat indigne, il existe dans beaucoup de villes dans notre pays. Plusieurs centaines de milliers de logements. Et donc aujourd'hui, on entame justement cette reconstruction, c'est-à-dire cette rénovation.
Vous avez signé notamment une charte avec la métropole et la ville qui vise à réhabiliter 1800 logements. Vous nous dites, vous avez été 8 ou 9 fois à Marseille, vous mouillez la chemise en quelque sorte. Et pourtant, est-ce que c'est suffisant? Écoutez Kauter Ben Mohamed, elle a fondé Marseille en colère et elle vous en demande beaucoup plus.
Nous ne pourrons sortir de cette crise et de la gestion de l'urgence que lorsque des milliards seront débloqués au niveau de l'État, de la métropole et de la ville afin de pallier au vrai problème, c'est-à-dire l'abandon de la ville depuis 50 ans et donc à la réhabilitation, rénovation et construction de logements là où ça n'a pas été fait depuis 50 ans.
Juste un chiffre, selon la Fondation Abbé Pierre, 100 000 Marseillais s'entassent dans 40 000 taudis.
Oui, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est qu'on a un défi énorme à Marseille et aussi dans quelques autres villes. Un défi énorme qui est de réhabiliter tous ces logements. Alors la question, c'est comment on fait? On doit d'abord mettre les moyens
Est-ce que c'est une tâche indélébile pour le maire Jean-Claude Gaudin?
Ça, c'est aux Marseillais de le dire.
Non, mais vous, qu'est-ce que vous en dites?
Je dis que c'est aux Marseillais de le dire. Aujourd'hui, vous avez une situation qui est ce qu'elle est. C'est-à-dire une situation où, effectivement, vous avez beaucoup d'immeubles à réhabiliter, à rénover. Moi, mon rôle, il n'est pas de dire c'est de la faute d'un tel ou d'un tel.
Non, mais
mon
il y a une enquête de Mediapart et il y a une enquête de Marsactu qui montre que même dans le patrimoine de la ville de Marseille, il y a plus d'une cinquantaine d'immeubles au centre de Marseille, par exemple dans le quartier du Panier, qui sont pratiquement en voie de ruine et de s'effondrer. Vous demandez à Jean-Claude Gaudin de faire face à ses responsabilités?
Je dis que personne ne peut comprendre qu'il y ait des logements vacants quand il y a des personnes qui cherchent à se reloger.
Là, ce sont des logements insalubres. Heureusement qu'on n'a mis personne dedans.
Non, mais
ce qui est étonnant, c'est qu'ils appartiennent à la ville.
Je vais vous donner un exemple. Au lendemain de ce drame de Marseille, j'ai demandé au service de l'État, est-ce que l'État était propriétaire de logements sur la ville de Marseille? Et par exemple, les Marseillais la connaissent bien, il y a une caserne qui s'appelle la caserne du Muy. On s'est rendu compte qu'il y avait quelques dizaines de logements. On les a réhabilités, ça prenait du temps de les réhabiliter, pour pouvoir les réallouer à des sinistrés de la rue de Bagne. Les Marseillais, lors d'un de mes premiers déplacements, m'ont dit, vous savez, à Marseille, il y a une rue, c'est la rue de la République. Rue de la République, on est convaincus, il y a plein de logements vacants. J'ai pris mon téléphone pour appeler les grands propriétaires, les foncières qui disposent de ces logements. Et je les ai convaincus de remettre plus d'une centaine de logements à destination des Marseillais meurtris. Parce que
c'est vraiment
pour
le
moi,
boulot d'un ministre.
D'un ministre.
Aujourd'hui.
Vous savez, le boulot d'un ministre, c'est d'être aux côtés des Français quand les choses ne vont pas assez vite.
Évidemment, c'est votre travail, au sens où il faut faire avancer les choses.
À la fin,
il a fallu attendre au bagne et que vous décrochiez votre téléphone pour qu'on trouve qu'il y a des logements vides dans une ville qui souffre du mal logement.
À la fin des fins, si ça permet de faire avancer les choses, vous savez, moi, je ne résigne jamais devant la tâche. Si à la fin des fins, ça permet de faire avancer des choses, qu'un ministre mouille autant la chemise, je pense que c'est mon rôle. Maintenant, encore une fois, vous savez, derrière les municipalités, vous avez des centaines d'agents municipaux, que ce soit à la mairie de Marseille ou à la métropole, qui eux aussi mouillent beaucoup, beaucoup la chemise.
Évidemment. Est-ce qu'il faut aujourd'hui mettre en place une police unique en France pour traquer les logements indignes?
Alors, il faut traquer, et c'est d'ailleurs mon principal ennemi, ces marchands de sommeil. Les marchands de sommeil, c'est quelque chose qui est inacceptable dans notre pays. Ce sont des personnes qui louent des biens complètement insalubre à des personnes en détresse.
Précaires ou parfois sans papier, qui donc ne peuvent pas aller porter plainte gentiment à la gendarmerie ou au commissariat, sinon on les renvoie chez eux.
Exactement, qui sont sous l'emprise en plus de ces marchands de sommeil. Ces marchands de sommeil, ces escrocs, jouent sur cette détresse totale. Et donc, moi j'en ai fait mon ennemi public numéro un, ces marchands de sommeil. Et comment on a fait ? Ben, on a changé la loi. Par la loi, aujourd'hui, ces marchands de sommeil, on les considère comme des trafiquants de drogue. C'est-à-dire qu'on va les taper là où ça fait mal pour eux, c'est-à-dire dans leur portefeuille. On va aller leur prendre l'argent qu'ils volent à ces personnes en détresse. Et puis deuxièmement, quand vous déclarez la guerre à quelqu'un, il faut aller traquer cet ennemi. Ben, par la loi, j'ai fait en sorte que tous les agents de l'immobilier, les agences immobilières, les syndics, aient l'obligation de dénoncer les marchands de sommeil qu'ils connaissent. Parce que tout se sait dans un
échelon. Ça fonctionne ou pas ?
Ben, on a aujourd'hui des premières décisions de justice qui ont été prises depuis que la loi a été promulguée, des premières décisions de justice qui vont dans ce sens. C'est-à-dire des sanctions très sévères, parce que le principe, il est assez simple. Il faut stopper cette impunité qui est le sentiment qui prédomine chez les marchands de sommeil. Et aujourd'hui, ça marche. Et le deuxième élément très important, c'est d'accompagner les Français qui subissent ces pressions-là. Et donc, on a créé une plateforme, le 0806 706 806. Et je dis à tous les Français qui sont sous l'emprise de ces marchands de sommeil, on est là pour vous aider.
Est-ce qu'on peut appeler anonymement ?
Bien sûr, c'est des spécialistes qui sont derrière. On l'a lancé il y a un mois. En un mois, on a eu plus de 2000 appels. Plus de 2000. Pour justement accompagner les Français face à cette détresse. Parce que moi, ces marchands de sommeil, je leur déclare cette guerre pour faire en sorte qu'ils cessent cette activité insupportable.
D'un mot, Julien de Normandie, est-ce que la meilleure réponse ou la meilleure contre-attaque face à ces marchands de sommeil, ça n'est pas plus de construction en France ? Il y a 2 millions de demandeurs de logements sociaux, seulement 500 000 sont attribués chaque année. Vous aviez, quand vous aviez pris votre ministère, parlé d'une politique de choc. Un choc de l'offre, ça a fait un peu pchit, non ?
Et vous avez raison sur le fait que les marchands de sommeil, ils arrivent à tenir les personnes en disant « mais de toute manière,
vous ne trouverez pas mieux ailleurs ».
Exactement. Et donc, il faut, en parallèle de ça, renforcer dans les territoires tendus, notamment, pas que, mais notamment, cette construction et notamment la construction de logements adaptés, c'est-à-dire à très bas coût. On a passé une loi pour accélérer ces constructions. Cette loi, elle a maintenant 8 mois. On l'applique aujourd'hui de manière acharnée pour faire en sorte de relancer la machine dans des territoires où la machine ne va pas assez vite. Donc je me cache nullement derrière quelconque résultat. Au contraire, je dis, ces résultats, moi, ils m'imposent, ils m'obligent à avancer encore plus vite dans ces réformes pour faire en sorte que la construction soit à la hauteur, justement, des défis auxquels nous devons faire face aujourd'hui.
Il est 9h10 sur France Info. Une petite pause, le rappel de l'actualité avec Soizic Bourg, et on poursuit cet entretien avec le ministre de la Ville et du Logement, Julien de Normandie.
Vers une fusion entre PSA et Fiat Chrysler pour créer un géant mondial de l'automobile, les deux groupes confirment discuter d'un rapprochement. Si mariage il y a, Carlos Tavares devient PDG de la nouvelle entité valorisée à 50 milliards de dollars. 14 000 places temporaires d'hébergement d'urgence ouvertes par le gouvernement, annonce sur France Info du ministre de la Ville Julien de Normandie sur France Info, donc, ce qui porterait à 150 000 places le nombre de places temporaires d'hébergement d'urgence sur le territoire. La négation du fait religieux ni un outil de lutte contre les religions, mais une valeur du triptyque républicain. Emmanuel Macron donne sa vision de la laïcité 2 jours après l'attaque de la mosquée de Bayonne. Le chef de l'État assure que la République fait bloc autour des victimes. Le tireur présumé, lui, est toujours entendu par les enquêteurs. Il se penche sur son profil psychique pour déterminer sa responsabilité pénale. Claude Cinquet affirme avoir voulu incendier la mosquée pour venger la destruction de Notre-Dame de Paris, acte qu'il impute aux musulmans. Et puis un chèque pour la police, 50 millions d'euros pour payer près de 3 500 000 heures supplémentaires aux policiers d'ici la fin de l'année. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'y était engagé l'an dernier auprès des syndicats.
France Info. Et tout est plus clair.
Julien de Normandie, les APL qui permettent à des millions de Français de payer un peu moins cher leur loyer avaient baissé, tout le monde s'en souvient, au début du quinquennat de 5 euros. Qu'en sera-t-il cette année, en 2019, et l'an prochain, en 2020 ?
J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je pense que cette baisse des 5 euros était une erreur. Parce que ça ne reflète pas la façon qu'on a de faire de la politique, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit toujours des réformes de structure et pas des réformes paramétriques. Aujourd'hui, on a lancé un chantier très important sur les APL, qui est le chantier des APL en temps réel.
Comme pour l'impôt à la source.
Exactement.
En fonction des revenus de l'année en cours et pas deux années auparavant. Je reviens juste à ma question avant de venir à ça parce que c'est important.
Il n'y aura pas de nouvelle baisse d'appel.
Il n'y aura plus de baisse en 2020, en 2021, pas, 2022, alors, c'est terminé.
Il faut être très précis. Oui. Il n'y aura plus de baisse paramétrique comme celle que nous avions.
Paramétrique, personne ne comprend.
C'est-à-dire une baisse bête et méchante de 5 euros comme cela avait été le cas il y a deux ans.
Et les APL seront réévaluées en fonction de l'inflation ou pas?
Non, ce qu'il faut bien. Aujourd'hui, elles augmentent de 0,3%. Par an, c'est tout un débat qui a eu lieu.
C'est moins que l'inflation.
C'est moins que l'inflation, mais la décision qu'on a prise, c'est de les réévaluer de 0,3% par an.
Donc elles baissent.
Elles augmentent de 0,3% par an.
Après, ce qu'il faut éviter que le coût de la vie.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre question qui est-ce que ça augmente ou est-ce que ça baisse, les appels, en fait, chaque année, vous avez entre 1 à 2 millions de personnes qui voient son montant varier. Parce que sa situation a évolué, parce que ses revenus ont évolué. Et aujourd'hui, quelle est la réforme que nous faisons? C'est une réforme qui vise à faire les appels en temps réel. Concrètement, ça veut dire que désormais, à partir de janvier, on va calculer le niveau d'appel en fonction de ce que vous gagnez durant les 12 derniers mois et pas en fonction de ce que vous avez gagné il y a 2 ans. Personne ne peut comprendre qu'on donne un niveau d'appel en fonction de votre situation il y a 2 ans. Personne. C'est même aberrant. Prenons une femme qui, il y a 2 ans, avait un travail à temps plein. Était en couple et qui, malheureusement, aujourd'hui, est à la tête d'une famille monoparentale et travaille à mi-temps, elle reçoit un niveau d'appel qui est inférieur à ce à quoi elle aurait
mais
droit.
Mais prenons à l'inverse un étudiant qui vient de rentrer dans le marché du travail, il y aurait eu droit aujourd'hui, il n'y a plus droit avec la réforme.
Mais qu'une personne aujourd'hui, par exemple, il y a 2 ans était au chômage, retrouve un emploi aujourd'hui, je crois que tout le monde comprend, là aussi, que le niveau d'appel, il soit adapté en fonction de la situation.
Mais d'un mot, Julien Normandie.
Et donc cette réforme, appel en temps réel, elle rentre en œuvre au début de l'année.
Au 1er janvier, est-ce que vous réfutez les projections des professionnels, effectivement, qui disent, cette réforme va permettre à l'État d'économiser pratiquement 1 milliard d'euros par an?
Non, je les réfute pas. Et pourquoi? Et d'ailleurs, moi, vous savez, j'ai jamais l'économie honteuse. Jamais. Et je crois que c'est très important parce qu'on fait pas des économies pour se faire plaisir. On fait des économies parce que, c'est important pour nous, pour la génération future. Pourquoi là, ça fait faire une économie, cette réforme? Parce que depuis 2 ans, il s'avère que vous avez 500 000 créations d'emplois et 300 000 chômeurs de moins. Voilà. Alors, ça implique quoi? Ça implique que des personnes qui, effectivement, ont retrouvé un emploi, aujourd'hui ont un salaire, alors qu'il y a 2 ans, n'en avaient pas, effectivement, leur niveau d'appel va être adapté. Mais inversement, imaginez que dans, je ne le souhaite évidemment pas, que dans quelques années, vous ayez un retournement économique, que vous ayez un chômage qui augmente au lieu de diminuer. Évidemment, je ne le souhaite absolument pas.
L'État suivra.
Dans ce cas-là, la réforme que je porte n'est pas une réforme qui fait faire des économies, mais au contraire une réforme qui coûte, mais qui assure ce filet de sécurité. Bref, au final, je crois que toutes celles et ceux qui nous écoutent ne peuvent pas comprendre qu'on vous donne aujourd'hui une allocation en fonction de votre situation d'il y a 2 ans. Mais je veux dire, chacun dans nos vies, souvenez-vous de votre situation il y a 2 ans. Pour beaucoup, elle a changé. Donc, je crois que c'est une mesure de bon sens, mais c'est une réforme qui est une réforme très lourde à porter.
Pour les allocataires des APL, Julien de Normandie, qui s'inquiéteraient à vos propos en disant qu'est-ce qui se passe à partir de janvier, combien je vais toucher précisément, il y a un simulateur ou quelque chose qui va être mis en place dans les semaines ou les mois qui viennent, c'est dans 3 mois, le 1er janvier.
Les caisses qui gèrent cela, notamment la CNAF, va adresser aux allocataires un courrier dès la semaine prochaine et il y aura un simulateur qui sera mis en place un peu après pour pouvoir justement accompagner les Français dans cette réforme. Il y a 6,5 millions de Français qui aujourd'hui touchent les appels, qui sont pour moi un élément important parce que c'est quelque chose qui vous permet de supporter la charge de loyer qui parfois est évidemment trop importante
dans notre pays.
Pour terminer,
2 petites questions sur les municipales, puisqu'on parle logement. Est-ce que Jean-Louis Borloo, l'ancien ministre de la Ville, ferait un bon candidat de la majorité à Paris?
Moi, je crois surtout que nous avons un très bon candidat aujourd'hui qui est Benjamin Griveaux.
La suggestion, de François Bayrou, c'est non?
J'apprécie énormément Jean-Louis Borloo que je vois très très régulièrement, mais je vous le dis très clairement, nous avons un et un seul candidat à Paris, c'est Benjamin Griveaux.
Et vous-même, Julien de Normandie, est-ce que vous feriez un bon candidat pour la majorité à Marseille?
Écoutez, je suis très touché que vous me posiez la question parce que par rapport à ce qui est dit avant, je crois que ça montre que effectivement, quand vous mouillez la chemise, les personnes se disent « Ah bah dis donc, il y a vraiment des gens qui suivent le dossier ». Aujourd'hui, moi, je n'ai pris aucune décision quant au municipal, mais ça ne sera pas sur une ville comme Marseille. Je pense qu'il faut que ce soit des villes sur lesquelles vous avez vos attaches de vie parce que vous y avez grandi, parce que vous y avez vécu ou parce que vous y vivez aujourd'hui. Donc moi, je vais m'investir beaucoup en tant que ministre de la ville et responsable politique à En Marche dans cette campagne municipale. Je n'ai pas pris ma décision encore de savoir si j'irai ou pas. Je le prendrai d'ici la fin de l'année. Mais ça ne sera pas dans cette belle ville de Marseille, même si je soutiendrai profondément La République En Marche dans cette belle ville de Marseille.
Il va falloir trouver un candidat d'ici là, quand même, à Marseille. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Julien Normandie, ministre de la Ville et du Logement, invité ce matin de France Info. Dans deux minutes, il sera 9h. Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info. Paris, la bataille, le feuilleton des municipales. Un nouvel épisode tous les vendredis. Un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.